Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous propose de vivre une expérience passionnante et aussi, je vous préviens, très dérangeante. Il s'agit de revisiter en 3 épisodes l'affaire Ranucci. L'histoire de cette petite fille, Marie Dolores Rambla, assassinée en 1974 par Christian Ranucci, qui 2 ans plus tard a été condamnée à mort et guillotinée. Dans votre tête sans doute, cette histoire porte un autre nom, l'affaire du pullover rouge. Je vous le raconterai dans le 2e épisode, il n'y a pas d'affaire du pullover rouge, il n'y a jamais eu d'affaire du pullover rouge. Et dans le 3e épisode, vous découvrirez comment cette mystification peut-être expliquer que des décennies plus tard, le frère de Marie Dolores, Jean-Baptiste, soit devenu un meurtrier, et même un double meurtrier. Ça va beaucoup vous secouer, tout ça. J'ai écrit cette série en m'appuyant sur une formidable série documentaire de Canal+, réalisée par Julien Seri, Dolores, la malédiction du pullover rouge. Elle est disponible sur MyCanal. Voici donc le 1er épisode. Il est incontournable pour se mettre les idées au clair. Il s'agit de raconter l'affaire Ranucci jusqu'à l'exécution de Christian Ranucci. Je l'ai écrit avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le lundi de Pentecôte 1974, vers 11h du matin, dans une cité HLM de Marseille, la cité Sainte-Agnès, 2 enfants, un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Jean-Baptiste et sa sœur de 8 ans, Marie Dolores, sont en train de jouer dehors, en bas de chez eux. La mère régulièrement jette un coup d'œil par la fenêtre de sa cuisine. Et puis à un moment, vers 11h20, elle ne voit plus que son fils. Alors elle se penche à la fenêtre.
Jean-Baptiste ! Elle est où ta sœur ?
Elle est partie avec un monsieur qui avait perdu son chien noir pour l'aider à le retrouver.
Les parents se précipitent en bas de l'immeuble. Ils font le tour de la cité à la recherche de leur fille. Ils ne la trouvent pas. Et pas non plus d'homme au chien.
Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, monsieur ? Pourquoi tu n'es pas allé avec eux ?
Il m'a dit, je reste de ce côté avec ta grande sœur et toi tu vas faire le tour par l'autre côté de l'immeuble pour chercher le chien, et puis on se retrouvera ici.
Il n'a fait qu'obéir, le pauvre. C'est un petit garçon qui n'a même pas 7 ans. Il n'a fait qu'obéir. Alors les parents foncent au commissariat, ils signalent la disparition de leur petite fille de 8 ans, Marie Dolores. Et cette disparition, honnêtement, ressemble à un enlèvement.
À ce stade, le petit Jean-Baptiste est le seul témoin de la disparition de sa petite sœur.
Un monsieur est arrivé avec une voiture, il m'a appelé avec ma sœur. Après, il a dit que je cherche le chien.
Il avait perdu son chien ?
Oui. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma sœur le reste là.
Et alors, tu es parti chercher le chien ?
Oui.
Et ta sœur est restée avec le monsieur ?
Oui.
Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là, et ta grande sœur non plus.
Non.
Et les policiers demandent au gamin, à quoi il ressemblait, ce monsieur ? Il répond qu'il était jeune, qu'il avait des cheveux noirs, qu'il était grand, qu'il portait un costume gris, et qu'il parlait comme les gens d'ici. Et après, les policiers lui demandent, et la voiture ? Qu'est-ce qu'il avait comme voiture, ce monsieur ?
Mais c'était une voiture, elle était grise.
Les policiers demandent alors à Jean-Baptiste s'il y a une voiture du même modèle parmi celles qui sont garées en bas de son HLM.
Oui, celle-là, peut-être.
Il vient de désigner l'une des voitures de police, une Simca 1100. À peu près au même moment, se déroule un autre événement d'apparence beaucoup plus anodin. Un accident de voiture à 20 km de Marseille. Vincent Martinez roule tranquillement en direction de Toulon et soudain, au carrefour dit de la Pomme, une voiture grille en stop et vient le percuter par la gauche. Il fait un tête-à-queue et le chauffard s'enfuit. Heureusement, un couple qui arrive juste derrière a tout vu.
Ils s'appellent Aline et Alain Aubert. Ils ont vu l'accident. Et ils se lancent à la poursuite de la voiture, un coupé 304 Peugeot bleu. Et un kilomètre plus loin, ils voient la voiture arrêtée au bord de la route. Et ils voient surtout le chauffard qui s'enfuit à pied, qui grimpe un talus au-dessus de la route et qui s'enfonce dans la végétation. Alain Aubert lui crie
« Revenez ! Revenez, vous n'avez aucune raison de vous cacher ! Il n'y a que de la tôle froissée !»
Mais le type ne répond pas et il disparaît. Les Aubert notent le numéro d'immatriculation de sa voiture, 1369-SG-06, et ils font demi-tour jusqu'au carrefour de la Pomme pour aller donner le numéro à Vincent Martinez, l'automobiliste accidenté, lequel va tout de suite porter plainte à la gendarmerie.
Dites-moi, monsieur, il était tout seul, là, ce monsieur dans sa voiture? Ah oui, oui, il était seul.
Quelques minutes plus tard, toujours dans le même coin, un fermier, monsieur Guazzone, voit arriver un homme à pied.
Bonjour, monsieur. J'ai eu un problème avec ma voiture, là. J'étais en train de pique-niquer près de l'entrée de la champignonnière. Et puis j'ai pas serré le frein à main. Ma voiture a glissé dans la galerie. Et maintenant, j'arrive plus à la sortir. Je me suis embourbé, quoi. Vous pourriez venir m'aider à la sortir avec votre tracteur?
Le paysan dira qu'il n'a pas vraiment cru à son histoire. Que la voiture n'a pas pu rentrer comme ça dans ce tunnel. Mais bon, il y va avec son tracteur. Et il note que la voiture, un coupé 304 Peugeot, a reçu un choc à l'avant-droit. Et il le sort de là. Mais qu'est-ce que faisait ce type dans cette champignonnière, seul? Le surlendemain, Vincent Martinez, vous savez, l'automobiliste accidenté, découvre l'enlèvement de la petite fille en lisant le journal. Et il fait tout de suite le lien avec la voiture qui l'a percutée. Il se dit, c'est pour ça qu'il s'est enfui, parce qu'il venait d'enlever la petite fille. Sauf que la veille, quand il a porté plainte, il a dit que l'homme était seul. Et donc il rappelle les gendarmes.
Dites, oui, j'aimerais modifier ma déposition. Oui, voilà, je voudrais ajouter qu'un enfant a pu se trouver à bord. Voilà. Merci, hein.
Le problème, c'est que les deux témoins de l'accident, les Aubert, eux non plus, n'ont pas parlé de quelqu'un d'autre. Interrogés la veille par les gendarmes après l'accident, ils n'ont parlé que du conducteur. Et donc, eux aussi, modifient leur déposition.
Quand il est descendu de la voiture pour grimper sur le talus, il tenait quelque chose dans les mains. Je dirais un paquet, peut-être, oui. Gros. Volumineux.
En attendant, pour les policiers qui manquaient de pistes, en voilà une belle. Et donc ils vont là où le couple Aubert a vu cet homme grimper au talus, ils fouillent les abords, et au bout de 2 heures, sous les broussailles, ils tombent sur le corps d'une petite fille. Un petit corps lardé de coups de couteau. Pour l'identifier, ils font venir sur place le père Rambla. Au hurlement qu'il pousse, ils comprennent que c'est elle.
Évidemment, les policiers quadrillent toute la zone alentour. Ils cherchent des indices. Et à un moment donné donc, ils entrent dans la champignonnière, une sorte de tunnel qui s'enfonce dans la colline. Et au fond de la galerie, parmi d'autres objets qui jonchent le sol, il tombe sur un pullover rouge. Il n'a pas l'air d'être là depuis longtemps. Il n'est pas humide et il n'est pas moisi. Et donc les policiers le ramassent et ils décident de le joindre à la procédure. C'est le premier objet saisi dans le cadre de cette enquête. Il devient donc le scellé numéro 1. À ce stade, en vérité, rien ne le relie à la mort de la petite. Cette champignonnière est parfois, paraît-il, fréquentée par des couples qui se donnent du plaisir. C'est peut-être juste un oubli, un amant fougueux qui s'est déshabillé et pas rhabillé entièrement. Et puis, les policiers font venir un chien. Ils le font partir de l'intérieur de la champignonnière à l'emplacement où la voiture de Ranucci s'est embourbée. Et ce chien les traîne à 30 mètres de l'endroit où était le corps de Marie Dolores. Notez que ce chien ne va pas jusqu'à l'endroit où était le corps. 30 mètres, c'est tout près, mais ça n'est pas à côté non plus.
Et maintenant, il y a un suspect qui s'impose. Le propriétaire de la voiture. Les Aubert ont noté le numéro du coupé Peugeot 304, 1369 SG06. Alors les policiers filent à la préfecture, fouillés dans les fichiers d'immatriculation. La voiture appartient à un certain Christian Ranucci, 20 ans, représentant de commerce et qui vit à Nice, chez sa mère, où il est arrêté sur le champ. Christian Ranucci est interrogé toute la soirée et toute la nuit. 20 ans, il va forcément craquer.
L'accident, le délai de fuite, tout ça, oui. Oui, je reconnais, c'est moi. Mais le meurtre de la petite, non. Je vous jure que c'est pas moi.
C'est un coriace. La garde à vue s'écoule, il ne lâche rien. Au petit matin, pour tenter de débloquer la situation, les policiers décident de confronter Ranucci au couple Aubert. Avant d'assister au face-à-face déterminant entre les témoins de l'accident et Christian Ranucci, il faut quand même que je vous prévienne qu'à ce moment-là, les Aubert ont encore modifié leur témoignage. Vous vous souvenez qu'après l'accident, ils n'avaient vu qu'un homme quitter sa voiture et s'enfuir. Et qu'ensuite, ils avaient rajouté qu'il avait un paquet dans la main. Eh bien maintenant, le paquet, ça leur est revenu, c'était un enfant. Un enfant avec un short ou une culotte blanche. Témoin à la noix, oui. Du genre qui vous pourrisse un dossier. Pour commencer, Christian Ranucci est présenté à Aline et Alain Aubert derrière une vitre sans teint. Au milieu de policiers du même âge. On appelle ça un tapissage. Eh bien, ils ne le reconnaissent pas. Certes, ils l'ont vu de loin, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ensuite, on les met face à Ranucci, qui vient d'essuyer une nuit de garde à vue. Le face-à-face dure 4 heures. Et à un moment, Madame Aubert craque.
« Je vous ai vu, monsieur! Je vous ai vu! C'est vous !»
Et là, Ranucci vacille. Il baisse les yeux. Et il avoue. Il a enlevé et tué Marie Dolores Rambla. Pour la police, c'est bouclé.
Après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Les mobiles profonds, nous avons l'impression qu'il les cache actuellement parce que certainement il éprouve un sentiment de pudeur, n'est-ce pas ? Il déclare qu'il avait enlevé la petite fille, mais qu'il avait l'intention de la ramener à la maison. Et qu'en réalité, étant poursuivi par l'automobiliste dans les conditions que je vous ai indiquées, il a perdu la tête et il a tué la petite fille parce qu'il craignait que les gens qui le poursuivent ne puissent l'accuser d'avoir entraîné la petite fille dans la colline pour la violer, ce qui, selon lui, n'était pas le cas. La fillette n'a absolument pas été violée, elle a simplement été tuée de plusieurs coups de couteau et l'autopsie qui a été pratiquée ce matin est véritablement catégorique à ce sujet.
Et l'arme du crime, alors, monsieur Ranucci, où est-ce que vous l'avez mise ?
Je l'ai mise dans un tas de fumier, à côté de la champignonnière.
On va sur place avec un détecteur, une poêle à frire. Et au bout de 2 heures, on retrouve le couteau dans un tas de tourbe. Ça va peser lourd, ça. Très lourd. Même s'il a fallu 2 heures pour le trouver, le couteau était là où il l'a dit. Le 18 juin, Christian Ranucci adresse un premier courrier à sa mère.
« Maman chérie, toute cette affaire était déjà écrite. Tout s'est déroulé sans que toi ni moi n'y puissions rien. Il aurait suffi d'un clou sur la route, j'aurais crevé un pneu, et le stop, l'accident et ses conséquences n'auraient pas existé. Ne cherche pas à te reprocher quoi que ce soit, ou que je cherche, notre vie, mon éducation, tout, absolument tout, était parfait. Figurez-vous que c'est le correspondant d'Europe 1 à Marseille à l'époque, Roger Hardouin, qui trouve à la maman de Christian Ranucci un avocat. L'un des meilleurs du coin, Paul Lombard. Lequel Lombard confie le dossier à un bleu de son cabinet pour qu'il se fasse les dents. Jean-François le forçonné, 25 ans, qui commence par aller voir Ranucci à la célèbre prison des Baumettes.
Dites-moi, Ranucci, c'est vous qui l'avez tué, cette petite ?
C'est obligatoirement moi. Et là, le jeune maître le forçonné plonge dans le dossier. Et il tombe sur des pistes. Des pistes qui pourraient l'aider à pousser l'idée que ce type a peut-être avoué à un crime qu'il n'avait pas commis. Premier point litigieux, la voiture. Le frère de Marie Dolores, pas tout à fait 7 ans, a commencé par évoquer une voiture grise. Et quand on lui a demandé s'il a envoyé une du même modèle sur le parking de son HLM, il a désigné une Simca 1100. Et puis, il n'y a pas que lui qui a vu la voiture. Un garagiste qui a son atelier tout près des lieux de l'enlèvement l'a vu lui aussi. Et il a vu la petite monter dedans. Moi, je dis que c'était une Simca 1100 grise. Hein. Ça, j'en suis sûr et certain.
Alors, un enfant de 7 ans peut se tromper. Mais un garagiste sur une voiture. Cela dit, amusez-vous à aller comparer sur Internet, les deux voitures se ressemblent. Même ligne, à part les phares, qui sont ronds chez Simca et rectangles chez Peugeot. Ils sont donc deux à l'avoir vu, le petit Jean-Baptiste et le garagiste. On présente Ranucci aux deux.
Alors, gamin, tu le reconnais, le monsieur ?
Non, non, pas du tout.
Et vous, monsieur ? Vous le reconnaissez ?
Ah non, c'est pas lui, je le reconnais pas, hein.
Troublant, ils l'ont vu de près. La juge décide 3 semaines après d'organiser une reconstitution, sur place. Une reconstitution qui commence par le moment où Ranucci, qui vient d'avoir son accident, sort de sa voiture avec ce paquet devenu une petite fille, et grimpe sur le talus. Et d'entrée, on tombe sur un hic, sans s'y attarder, hein. Je m'y attarde moi parce que ça m'intrigue, et pas que moi. Comment Ranucci est-il descendu de sa voiture ?
Monsieur et Madame Aubert, s'il vous plaît, dites-nous par quelle porte est sorti l'homme que vous avez vu.
Eh bien, par la portière conducteur, hein, c'est ça, chérie ?
Oui, par la portière conducteur.
Or, ça n'est pas possible. Elle est coincée, la portière, par l'accident. Mais la juge s'en fiche.
Bon, bien, écoutez, d'accord, on va pas passer des heures là-dessus, hein. Allons tout de suite à l'essentiel, on va aller sur place. Bien. Ranucci, où l'avez-vous tué ? Est-ce que vous pouvez refaire le geste ?
Non ! Non, non, non ! Je ne peux pas refaire ça ! Je ne me souviens pas, là. Je me souviens pas.
À ce moment-là, la juge, hors d'elle, attrape les photos du cadavre.
Regardez ça, Ranucci ! Ça ! Hein ? Vous vous en souvenez de ça ?
Elle lui colle les photos sous le nez. Et l'autre fait une crise de nerfs. On dirait qu'il est amnésique. Il dit qu'il ne se souvient de rien. Sans pour autant dire qu'il est innocent. jamais. L'instruction est bouclée en un an. Ma petite maman, j'ai l'impression d'être tombé dans un piège. La manière dont l'instruction a été faite était le ressort qui a fermé le piège. J'ai tiré le gros lot du malheur, sans même avoir acheté un billet. Jusque-là, maître Paul Lombard, ténor du barreau de Marseille, avait laissé le jeune Le Forcené à la manœuvre. Mais à l'approche du procès, il monte en première ligne. Il sait qu'il a l'opinion contre lui. Alors il veut tenter au moins de se mettre la presse dans la poche. Il organise donc un dîner, chez lui, où il invite 7 ou 8 journalistes, dont bien sûr Roger Hardouin, d'Europe 1. Moi, que les choses soient très claires, j'ai l'intention de plaider l'innocence. Enfin, j'ai suffisamment dans le dossier pour penser que Ranucci est innocent. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Paul, ça me paraît hasardeux quand même, hein? Il y a beaucoup de choses qu'il accuse, quoi, quand même, hein? Il a raison. C'est une mauvaise idée. Enfin, bats-toi contre la peine de mort, Paul. C'est ta seule chance. Mais Paul Lombard ne changera pas d'avis. Lui et Le Forcené plaideront l'innocence. Ce que d'ailleurs leur demande Ranucci lui-même. Parce que lui aussi maintenant, il dit qu'il est innocent. 100% innocent. Quand on connaît la fin de l'histoire, évidemment, c'est une folie. Mais pour l'instant, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Le dossier est branlant. Il est bourré de failles. Les avocats y croient. Le procès s'ouvre le 9 mai 1976 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, franchement, on mettrait 2 ou 3 semaines à juger Ranucci. On va le faire en 2 jours. 2 jours, pendant lesquels le palais de justice va rester sous pression de la foule qui crie « À mort ! À mort !» Christian Ranucci entre dans le box.
Taille moyenne, complet bleu clair. Polo blanc à col roulé orné d'un crucifix en or. Petit visage étroit bien dessiné. Cheveux châtains, tel apparaît Christian Ranucci, 22 ans, qui fait penser à quelque futile oisillon.
Il fait tout de suite mauvaise impression. Il est trop bien habillé, il est trop dandy. Et ensuite il est buté, la tête tout le temps baissée à prendre des notes. Et puis, les témoins défilent à la barre. Vincent Martinez, avec lequel il a eu l'accident, les Aubert, très accusateurs, et enfin le commissaire Alessandra, qui a dirigé l'enquête. Et là, Ranucci s'emballe.
Vous m'avez extorqué les aveux, monsieur, en me passant à tabac. C'est faux. Vous m'avez donné des coups de matraque. C'est faux, Ranucci. Vous êtes un monstre.
Christian Ranucci, dans l'ensemble, se défend mal.
Que diriez-vous de la jeune Marie Dolores, monsieur Ranucci?
Je dirais que nos routes se sont croisées. Je la connaissais pas, je n'y peux rien.
Il est arrogant, entêté, agressif. À un moment, la défense abat sa carte maîtresse. Une certaine Madame Mattei qui vient à la barre.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, madame, ce dont vous avez été témoin quelques jours avant le drame qui a emporté la jeune Marie Dolores?
Oui. Voilà, on habite une cité de Marseille. Et ma fille jouait dehors avec une copine et là, un homme dans une voiture qui portait un pullover rouge, je précise, est venu leur parler pour leur dire qu'il avait perdu son chien et leur demander de l'aide pour le retrouver.
Quelle était la marque de la voiture, madame?
C'était une Simca.
Une Simca 1100.
Bim! Parce qu'il est démontré que Ranucci n'était pas à Marseille ce jour-là. Sauf que l'avocat de la famille Rambla, maître Gilbert Collard, ne se laisse pas faire.
Madame, pouvez-vous nous donner le nom de la camarade qui jouait avec votre fille ce jour-là?
Elle est incapable de donner le nom. Et du coup, elle passe pour une menteuse. Maître Collard, avocat des parties civiles, est le premier à plaider. Il ne réclame pas la peine de mort. Les Rambla sont contre.
Je dirais au contraire. Hein? Qu'il reste vivant. Et que, d'une certaine manière, Marie Dolorès reste vivante elle aussi dans les remords de quelqu'un.
Et puis l'avocat général, Armand Viala, se lève. Et il requiert la mort.
Vous m'effrayez, Ranucci, dit l'avocat général. Vous m'effrayez parce que vous ne dites rien. Vous ne vous libérez pas, mais parlez donc! Moi, je pense à ce père qui a vu le corps de sa fillette, Marie Dolorès. Vous savez, Ranucci, elle est là, près de moi, elle vous regarde. Dieu vous assiste, Ranucci, parce que vous êtes au-delà de la pitié des hommes.
Et juste après, c'est à maître Lombard de plaider l'innocence, donc.
N'écoutez pas la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Je plaide non coupable. Je dis qu'au moment où il a avoué, Christian Ranucci n'était pas en possession de toutes ses facultés. Allez-vous condamner sur la foi d'un dossier en plâtre? Je ne suis pas du côté des assassins, mais je ne suis pas non plus du côté de l'erreur judiciaire. Acquittez Christian Ranucci, mesdames et messieurs. Le sang se lave avec les larmes, pas avec le sang. Tant que la peine de mort existera, la nuit, règnera sur les cours d'assises.
Les jurés mettent 2 heures à délibérer. 8 hommes et 1 femme. Et le verdict tombe à 20h30.
Accusé, levez-vous, je vous prie. À la question « Christian Ranucci est-il coupable ?» Les jurés dans leur majorité ont répondu oui. À la question « Christian Ranucci a-t-il des circonstances atténuantes ?» Les jurés dans leur majorité ont répondu non. La cour et les jurés vous condamnent à la peine de mort.
Accueilli ce verdict sans mot dire. Ranucci a été condamné à mort, l'opinion publique est satisfaite, la question est de savoir si la justice a été normalement rendue.
Maman chérie, je ne comprends toujours pas pourquoi ils m'ont condamné. Ils m'avaient l'air d'être des gens sensés, et pourtant ils n'ont pas hésité à me condamner en faisant abstraction des témoignages. Ces avocats se pourvoient en cassation. Rejeté.
Il n'y a plus qu'un espoir, la grâce présidentielle. Giscard est un président moderne, il a dit plusieurs fois qu'il était opposé à la peine de mort. Maître Lombard est reçu à l'Élysée en tête à tête par le président. Et quand il sort de son bureau, il est à peu près sûr de l'avoir convaincu. Sauf que le jour même, un petit garçon, Vincent, est enlevé à son tour à Marseille et retrouvé mort. À ses obsèques, les gens réclament la guillotine. Alors Giscard n'aura pas le courage. Christian Ranucci
est emmené à la guillotine le lendemain matin, 28 juillet, à l'aube. Il lit une dernière lettre de sa mère. On lui offre une dernière cigarette. Il la fume. On lui offre un verre d'alcool. Il le refuse. Et il refuse aussi le prêtre. On le ficelle. On le porte au pied de la guillotine. On le plaque sur une planche en bois. Et la lame tombe. Et après, on passe le jet d'eau. La suite très dérangeante de cette histoire dans le deuxième épisode. Podcast inspiré d'une série de Canal Plus réalisée par Julien Seri, Dolores, la malédiction du pullover rouge, disponible sur MyCanal.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.